Pour rendre hommage à Eric Azraï qui nous a quittés malheureusement aujourd'hui à l'âge de 82 ans, nous allons écouter ensemble un épisode de Strasbourg Pilote. Solange Chouchanard la recevait en invité en 2015.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h avec C'est Solange. Eric Azraï, bonjour.
Bonjour Solange.
Vous venez de faire paraître aux éditions Michel Lafon un nouveau livre, Eric Azraï, L'espérance a toujours raison. Et vous notez que ce sont des mémoires.
Je ne voulais pas pendant de longues années écrire sur ma vie. J'avais l'impression que ma vie privée n'intéressait personne déjà. Et quand j'ai écrit, c'était par exemple parce que j'ai souffert d'un grave accident de voiture et j'ai fait 12 ans d'études. Après, je me suis donné la permission d'écrire sur la médecine naturelle et quelques autres et livres qui ont suivi, qui parlaient de la santé. Mais ma vie privée, je l'ignorais à l'époque, mais comme il y a dans ma famille un secret, un lourd secret de famille, ces lourds secrets fonctionnaient toujours et que je ne me suis pas donné la permission d'expliquer et raconter ma vie. Maintenant, mes deux parents m'ont quitté, ils ont quitté ce monde. Et est-ce à cause de ça, ou est-ce que parce que j'ai mûri, et je me suis dit, ces secrets étaient bien lorsque j'étais petite, et aujourd'hui, je ne vois aucune raison pourquoi garder ce secret, au contraire, le raconter me fera un grand bien. Aussi, je me suis dit que j'aime beaucoup mes parents, mais je peux dire toute la vérité, et dire que je les aime malgré leur imperfection et pas juste parce qu'ils sont parfaits. Au contraire, de dire que nous tous, on peut se donner la permission d'aimer tendrement quelqu'un alors qu'il n'est pas parfait et qu'on peut l'aimer tout de même.
Alors dans votre livre, vous dites que vous êtes une fille de l'Est, mais que vous êtes aussi une enfant de Palestine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ceci ?
Bien, d'abord, mon père vient de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine. Ma mère vient de la Lituanie, de la Pologne. Ils se sont rencontrés en Israël et je suis vraiment une fille de l'Est parce que ma mère a les pommettes hautes avec le nez en trompette et c'est que je prie d'elle. Alors je dis, je suis un peu une fille de l'Est. Mais je suis une fille de Palestine, forcément. Je suis née à Jérusalem, en Palestine, parce que lorsque je suis née, Israël n'existait pas encore. Et j'ai dit aussi dans un endroit et dans le livre que je suis une fille orientale, et je le suis, parce que tous les fibres en moi aiment et se trouvent bien dans l'Orient. Ça veut dire déjà la chaleur, le climat, le soleil, la mer, les odeurs dans les souks, dans les marchés, que ce soit des fruits, des légumes, des œufs, les épices, les bijoux, les étoffes, les soies. Il me reste ce plaisir qui est très oriental et très tactile, et ce plaisir tactile de toucher des choses. Il me reste ce plaisir immense de toucher des étoffes, des touches, des humées, des épices. Et c'est très oriental, puisque le climat le permet, puisque les gens, pour être sûrs qu'ils ne se trompent pas dans leur choix, utilisent leur sens, l'odorat, utilisent bien sûr les yeux, et utilisent aussi les sens tactiles de leurs mains pour toucher les choses. Et ce plaisir m'est resté alors que j'ai fait de longues années ici en France, alors que les gens sont peut-être moins tactiles ici en Europe qu'en Orient. Et je suis restée très orientale malgré tout ça, parce que ce plaisir-là de toucher et m'est resté intact, et ce plaisir bien sûr du soleil et des épices, et puis cette air spécial, et lorsque le soleil se couche, cette envie de humer du jasmin, par exemple, lorsque le soleil se couche vers 5-6 heures l'après-midi, et avoir des buissons de jasmin qui dégagent à ce moment-là leur odeur, donnent au maximum leur odeur, ça c'est quelque chose de qu'on n'effacera pas de ma mémoire. J'aime ça. Alors, je dis, je suis une fille de l'Est, je suis une fille orientale, je suis une fille israélienne, et je suis aussi une fille française, puisqu'il y a beaucoup de choses françaises qui me touchent et qui me sentent tout de même, qui me font sentir proche à ces sons-là. Et l'art de la table, l'art de mettre la table, les belles manières françaises de mettre la table, la belle cuisine française, etc., etc. Donc, finalement, je suis un mélange de tout ça.
Lorsque l'on voit votre combativité, votre énergie, votre persévérance, cette volonté qui vous habite et qui vous a permis de surmonter des coups très durs de la vie, on pense aussi que vous le tenez de vos parents. Dans ce livre, il y a tout ce pan qui est levé, vous avez dit le secret a été levé, et votre père qui est allé à pied à 13 ans d'Ukraine en terre promise, il s'agit là d'un courage et d'une abnégation et aussi d'une foi en l'espoir hors du commun. De même, votre maman qui a perdu une très grande partie de sa famille dans les camps et qui a été marquée pour la vie. Donc cette énergie, vous la tenez d'eux. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous rapidement vos parents qui vous sont très chers?
Bien. Beaucoup de fois dans ma vie, lorsque la vie était très difficile, je me suis posé la question, comment est-ce que j'ai pu? Comment est-ce que j'ai tenu? Comment est-ce que j'ai réussi? C'est pas évident. Vous savez, après un accident de voiture tel que je l'ai eu, 8 mois, d'abord 6 jours dans le coma, après 8 mois paralysé dans une coquille en plâtre, et remonter la pente après, je me suis posé la question au départ. Souvent, je me suis dit, comment est-ce que j'ai fait? Et je pense que, un moment après, soudain, l'évidence m'est venue. Je me suis dit, mais finalement, j'entends la voix de ma mère, finalement, je fais comme ma mère faisait. Elle voyait pas ma mère, elle était aveugle. Et elle nous disait toujours, je ne vois pas, mais je vivrai comme si je voyais. Et je ne veux que personne sache que je suis aveugle. À l'époque, ça m'a paru inconcevable, incroyable, et même pas bien. Je dis souvent à ma mère à cette époque-là, je dis, pourquoi tu dis pas aux gens que tu es aveugle? Quelle honte il y a à être aveugle? Et pourquoi tu demandes pas de l'aide? Tout simplement, tu veux passer, tu dis aux membres de la famille que tu ne vois pas et ils t'aident. Et ils t'aideront tous avec amour, avec joie. Et elle m'a dit, tu connais pas les gens, tu sais pas à quel point ils se moquent de toi, tu connais pas la cruauté des gens. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi elle a pas voulu dire et sa cécité. Est-ce que c'est parce qu'elle a vu un aveugle maltraité dans son enfance? Est-ce qu'elle a vu un aveugle qui était moqué? J'ignore. Elle m'a jamais dit et je suis restée sans réponse. Mais, à cette époque de ma vie, lorsque je me suis posé souvent la question, comment suis-je surmontée? À un certain moment, la réponse était évidente. C'est tout de même l'enseignement de ma mère qui était là. À tenir envers et contre tout. À tenir même l'impossible. À faire quelque chose que les autres croient impossible et tu la veux tellement que tu réussis à le faire. Alors, est-ce que c'est uniquement l'enseignement de ma mère? Certainement, c'est aussi l'enseignement de mon père, tout de même. Voyez bien, Imaginez-vous regarder autour de vous un petit enfant de 13 ans. Il fête sa bar mitzvah. Vous le voyez si jeune, si frêle. Il monte à la Torah. Il lit et la paracha. Et vous imaginez qu'il vous quitte et qu'il va faire 1800 kilomètres à pied vers une destinée qu'il connaît pas, sans parents, sans famille, sans argent, sans manger, sans rien. Inimaginable. Eh bien, mon père l'a fait. Il a parlé avec ses parents de longues fois, beaucoup de fois, du sionisme. Mais à l'époque, en 1926, le sionisme, c'était pas évident. Mon père, lui, il a vu des pogroms à Odessa, un jour qu'il était avec son frère. Et il a vu un soldat russe et charger son cheval contre un homme juif qui était par terre, à terre. Et l'homme lui crie, lui demande d'épargner sa vie. Et les soldats lui foncent dessus, et c'est le sabot du cheval qui fait éclater la tête du juif. Mon père a dit toujours, comme une grosse noix. Et je crois que ça a été déterminant pour mon père. Il a dit à son frère sur le champ, mais on ne peut pas vivre dans un pays où on nous tue comme ça. On ne peut pas vivre. Et son frère qui était... Lui, il avait 11 ans, et son frère, qui devait avoir 18 ans, il était un peu moitié adulte, il a dit, bah, c'est comme ça. Et mon père lui a dit, non, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Et quand il rentre à Narovle, dans un petit village qui a 6000 âmes, et il rentre et il dit à ses parents, nous ne pouvons pas vivre dans un pays où on nous tue comme ça. Et son père, qui était rabbin, lui dit, écoute, discute pas, fais ta prière, travaille bien et à l'école religieuse, au Talmud, et quand tu seras grand, tu parleras. Et mon père, de 11 ans à 13 ans, n'arrêtait pas d'en parler à ses parents, mais personne l'a écouté. Et il a mûri la décision tout seul. Il a attendu sa bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est l'anniversaire des 13 ans. Et chez les juifs... Et cet anniversaire a un rôle initiatique. Ça veut dire le gosse de 13 ans devient homme dans la religion juive. À partir de ce moment-là, il peut prier avec les grands. Et sa voix compte comme celle d'un grand, à partir de 13 ans. Bien sûr, ça vient de l'époque où les enfants mûrissaient plus tôt et un petit homme de 13 ans comptait déjà. Et il a pris la décision, quoi qu'il arrive, il a lu des articles dans les journaux, il a entendu parler de Ben Gurion déjà, qui était en Palestine depuis 1920. Il avait Weizmann, Chaim Weizmann. Et il a dit, moi je pars là-bas. C'est un pays de désert, il n'y a rien, paraît-il, là-bas, ça ne fait rien, je serai parmi ceux qui vont construire. Moi, je pars là-bas. Mais partir là-bas, vous savez, lorsqu'on est à Narovle, quelque part en plein milieu de l'Ukraine, dans les neiges, et qui font 1,5 mètre, 2 mètres, ça veut dire je vais. Alors, il a entendu dans son école religieuse qu'on peut risquer le train qui va de Ouman. Il faut arriver déjà 60 kilomètres jusqu'à Ouman. Après, il faut prendre, risquer aussi, et clandestinement, un bateau qui ira de Odessa jusqu'à Constantinople, parce qu'à l'époque, Istanbul s'appelait Constantinople. Et après, on lui a dit, dans le port de Constantinople, il y a des bateaux qui partent en Palestine. Alors, il faut trouver un moyen de monter clandestinement dans un de ces bateaux, et 6 jours après, on est en Palestine. Donc, mon père dit, voilà ce que je veux faire. Alors, il réussit à marcher jusqu'à 60 kilomètres jusqu'à Oman. Il monte clandestinement dans le train qui va jusqu'à Odessa. Et à Odessa, il réussit sur le champ, enfin 2-3 heures après, il rentre clandestinement dans un bateau avec des fûts d'huile qui va vers Constantinople. Donc, le début du voyage, c'est parfait. Ça se déroule comme on a dit dans les cheder, dans l'école religieuse. Ce qu'il n'a pas compté, et ce que les enfants dans les écoles religieuses à Narovle ne savaient pas, c'est que la capitale la plus miséreuse d'Europe, à cette époque-là, à 1926, était Constantinople. Parce que les Turcs, qui ont dû reculer après la Première Guerre mondiale dans toutes leurs positions en Europe, ils ont quitté toutes leurs positions et dans les Balkans, ils se sont retranchés et rentrés en Turquie. Et avec eux, des milliers et des millions de civils qui les ont suivis, ayant peur de la population européenne, de la vengeance de la population européenne. Et d'une ville de 2 millions d'habitants, Constantinople, elle est devenue une ville de 6 millions d'habitants, 4 millions de réfugiés. Donc c'était la ville la plus miséreuse d'Europe, au point que les Nations Unies ont dépêché une commission, la commission Nansen, au nom des explorateurs Nansen, et pour aider un tout petit peu la population, parce que c'était la misère. Et à partir de ce moment-là, il y avait des milliers de réfugiés qui essayaient de resquiller des bateaux. Il y avait toujours la police au port et les marins qui tenaient bon avec des bouts de, avec des bâtons de bois pour empêcher les gens de monter sur les bateaux. Et pas uniquement en Palestine, dans toutes les destinations du monde. Et mon père, quand il arrive, quand il débarque de ce bateau de fûts de huile, il veut regarder, zioter où est-ce qu'il peut embarquer. Et là, il y a la police, il y a les matelots, tous avec des bâtons en bois qui empêchent n'importe qui de monter. Et aussi mon père qui avait 13 ans, un petit gamin. Et il n'a pas pu, il a essayé pendant deux journées entières, impossible. Et jusqu'à ce que les matelots étaient tellement en colère avec lui qu'ils commençaient à le courser avec le bâton. Et il les cavalait vers la ville en disant « Mais je comprends pas qu'est-ce que je vais faire là ?» Là, bien sûr, pendant quelques jours, il est désespéré. À c'était mois de janvier froid et Constantinople était très, très froide. Il y avait de la neige un peu, il y avait et beaucoup de pluie et du vent. Il est seul au monde. Il n'a pas de travail, il n'y a rien à manger. Il y a un sac au dos. Et après, il s'est dit, je ne veux pas rentrer chez moi. Même si je suis comme ça au milieu de nulle part, je ne veux pas rentrer chez moi. S'il le faut, je vais marcher en Palestine. Je vais essayer avec les trains, je vais essayer avec des charrettes. Et si ça ne marche pas, je vais marcher jusqu'à la Palestine. Je veux aller en Palestine. C'est là où les Juifs pourront vivre et c'est là où je veux aller. Et il a commencé son aventure vers la Palestine.
Alors je laisse nos lecteurs découvrir tout ceci dans votre livre. L'espérance a toujours raison. Simplement, je voudrais que vous nous parliez, vous qui êtes né en Palestine, vous avez connu les premières heures de cet État d'Israël, et notamment cette nuit du 30 novembre 1947. Vous aviez 9 ans, je crois.
Vous savez, il y a parfois des dates dans la vie qui sont ineffaçables, qui sont exceptionnelles, qui sont des dates...
Le destin, je disais, qui sont des dates...
Des dates du destin, mais des dates décisives, qui peuvent former et façonner toute une vie. Je connais bien sûr pas ni les camps, je connais pas l'expérience de mon père avec l'antisémitisme et avec des soldats du tsar, je connais pas tout ça, je suis née en Palestine. Mais à travers mes parents, à travers toute ma famille parentale, mais parce que j'avais personne de la famille maritale, et ma mère n'avait plus personne au monde. Toute sa famille est décimée dans les camps. Donc je n'avais que ma mère de côté maternel, et de côté paternel, Dieu merci, j'avais toute la famille. Et là, il n'empêche que j'ai reçu comme héritage toute l'angoisse des Juifs qui étaient chassés de partout. J'ai reçu comme héritage toute cette peur des Juifs. De quel côté viendra le problème? De quel côté et il y aura des pogroms? De quel côté il se passera quelque chose de négatif? J'ai reçu ça comme tous les enfants en Palestine à l'époque. Des parents, on a reçu ça comme héritage. Alors que on a vécu très difficilement, il y avait toujours la bagarre avec les Anglais, avec les Arabes. Mais tout ce qui se passait en Europe était tout de même notre histoire. Et voilà que je sais par mes parents que ça allait très mal avec les Anglais. Les Anglais avaient le mandat sur la Palestine. C'est eux qui gouvernaient la Palestine. Mais ils empêchent des bateaux juifs avec des réfugiés juifs. Ils empêchent de arriver en Palestine alors que ce sont des hommes qui ont passé le pire et ils les empêchent. Et là, il y a une bagarre qui commence entre la population juive et les Anglais. Avec les Arabes, autre chose. Il y avait tout le temps des événements, des scaramouches, des choses. Et là, et les Juifs demandent aux Nations Unies, ils demandent, nous ne voulons plus du mandat britannique. Nous voulons être indépendants. Alors, les Nations Unies dépêchent une commission PIL, la commission PIL, P-I-A-L, qui devait rendre le rapport et dire est-ce qu'on peut donner l'indépendance aux Arabes d'un côté et aux Juifs de l'autre côté. Et cette commission-là qui passe plusieurs mois en Palestine, qui interviewe des gens de gouvernement, de gouvernance de l'un et de l'autre, ils disent oui, les Arabes de toute façon peuvent avoir leur État et les Juifs, ils ont toutes les institutions qui fonctionnent déjà comme État. On peut leur donner l'indépendance. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas en mai 48 que Ben-Gourion déclare l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire déclarer un État? C'est juste un petit bout de papier qu'on lit. Mais un État, c'est plein de choses. Or, depuis 1920, les Juifs se sont organisés déjà, organisation interne. Ils ont déjà et la sécurité sociale que personne encore a en Europe, aucun pays. Israël a déjà la sécurité sociale depuis 1920. Ça s'appelle Koupat Rolim. Et il y a des dispensaires partout, partout, partout. Et les médecins, des infirmières, bien sûr, tout ce qu'il faut, des dispensaires et des centres médicaux. Centres médicaux, des hôpitaux. Tout ça, ce sont les Juifs qui autofinancent et qui paient leur propre sécurité sociale. En Israël, en 1920, vous avez déjà les compagnies Eged qui fait les transports dans toute la Palestine pour les Juifs. Il y a déjà les Technion à Haïfa. Plus tard, 5 années plus tard, il y a l'Université de Jérusalem. Et il y a vraiment toutes les institutions et il y a tout les réseaux d'éducation juifs et d'ailleurs doublé par 3. Un dans le réseau, il y a un et réseau très très religieux. Il y a un réseau d'éducation de disons et des gens traditionnels et il y a les réseaux laïques d'éducation que les Juifs s'autofinance et les Juifs se le payent. Donc, la commission PIL a vu tout ça, elle a dit, mais oui, c'est tout, il y a des institutions pré-étatiques, oui, Israël peut devenir un État dès lors qu'on va la déclarer État. Et lorsqu'il y a ce rapport-là, les Nations Unies se rencontrent et ils disent, ok, il faut passer au vote, il faut faire un vote, que disent les nations du monde? Est-ce que dans ce bout de terre qui s'appelle la Palestine, est-ce qu'on va faire 2 États? Un État arabe et un État hébreu. Et il y a la nuit du vote. Il y a ce célèbre, c'est la nuit du 29 novembre 47. Et nous, les Juifs, après, ça fait 2000 ans que nous n'avons pas un État. Nous avons une terre qui était la terre de nos prophètes, qui était la terre de nos rois, qui était la terre dans laquelle on a écrit la Bible qu'on a donnée au monde, avec les 10 commandements qui régissent aujourd'hui la morale des, à vrai dire, tous les pays du monde. Ça vient de la Bible. Un État, un passé 2000 ans. Vote. Est-ce que ça aura lieu ou pas? Enfin, le vote aura lieu, mais qu'est-ce que va être le vote? Est-ce qu'on va voter pour ou contre? Et toutes les maisons en Israël passent leur nuit à faisant le compte, tel État Oui, non, non. Là, paraît-il qu'il y a un jeune diplomate qui l'a voulu voter oui. Oui, mais les Arabes l'ont envoyé, une jeune fille magnifique, très très belle. Il est tombé amouraché d'elle. Il va voter non. Deux histoires à dormir debout, bien sûr. Mais on a raconté tout et n'importe quoi. Et je vois mon père encore avec tous ses amis en train de faire les comptes et noter les noms de tous les pays. Qui va voter oui, qui va voter non. Et n'importe quel compte qu'on a fait, on arrivait toujours à la conclusion que la réponse va être non. Et la nuit de vote arrive. Alors nous, on est dans le quartier chronique. Deux pour l'événement qu'il a pu, que son budget pouvait les permettre parce que on avait un tout petit budget à la maison. Et il installe ça sur les fenêtres, côté rue, vers la rue. Parce qu'il y avait dans la rue des centaines de personnes qui attendaient ce vote avec des peignoirs, avec des gros pulls, avec des gros châles. Ils étaient amassés tous devant notre maison sur la rue, dehors, avec les deux haut-parleurs. Qui disait, et il avait le vote qui a commencé. Et moi, je vois, Solange, comme je vous vois maintenant, je vois la scène. On entend la voix très mal comme ça, très anglo-saxonne, et très indifférente d'ailleurs. C'était pas une voix émotionnelle. Uruguay, no. USA, yes. On entendait, pour lui, oui ou non, ça a été pareil. Pour nous, c'était la vie ou la mort. Alors, tout le monde avait les papiers entre les mains et on notait. Et on notait. Et entre le vote, on comptait vite combien on a amassé de points pour le oui, pour le non. C'était une nuit incroyable. Mais, ce qu'on ne savait pas, et ce qui était une surprise divine, c'est que Staline, entre-temps, était conseillé par certaines personnes qui connaissaient l'envie de Staline, l'envie de pétrole de Staline et surtout les yeux qu'il jetait, les yeux doux qu'il jetait sur le pétrole irakien, qui l'ont dit, si vous avez une chance de s'installer au Moyen-Orient, s'il y a un État qui peut vous aider, c'est Israël, parce qu'ils sont des vrais États socialistes, parce que avec Ben Gurion comme directeur de l'agence juive, qui était un vrai, vrai socialiste, Israël était le seul pays véritablement socialiste au monde. Parce que les Russes étaient obligés de devenir socialistes. Les Juifs n'étaient pas obligés de devenir socialistes. Ils l'ont choisi, ils ont assumé, ils ont revendiqué le fait d'être socialistes. Alors on peut dire qu'Israël était encore plus socialiste même que la Russie. Alors, ah, il dit si c'est le cas, alors on va voter pour le fait qu'il y a un État d'Israël, parce que sinon, les pays arabes, qui sont des pays arriérés, qui sont des pays très, très traditionnalistes, j'aurais aucune chance de pénétrer au Moyen-Orient. Et il décide de voter oui, et il passe le mot à sept pays satellites communistes de voter oui. Donc ça faisait 8 voix d'un coup de oui. Et la France, qui normalement devait voter non, dernière minute, elle vote oui. Et avec elle, la Belgique, avec elle, la Suisse, et il y avait encore 4 pays africains qui suivaient toujours le vote français. Donc on se trouve avec 8 voix communistes d'un coup, et cette voix, et la France, la Belgique, et la Suisse, et 4 autres pays. Alors, il y avait 7 voix françaises. Donc, on avait 15 voix de plus. Et quand tous les pays satellites, d'abord la Russie, oui, il y avait un hurlement dans toutes les maisons en Israël, on entendait comme lors de matchs foot. Waouh, 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 comme ça. Et quand la France a dit oui aussi, et la Belgique, et là, il y a des gens qui sont tombés à genoux par terre avec les mains jointes. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Ah, c'était un événement. On ne peut pas oublier un événement comme ça, on ne peut pas. Et à la fin, donc ça a été évident, on avait 33 voix pour et 13 voix contre. Ce qui est une majorité magnifique, extraordinaire, une majorité royale. Et de toutes les maisons, alors là, Jérusalem qui est calme, Jérusalem qui a toujours peur, Jérusalem qui prie, Jérusalem, quand on marche dans la rue, on regarde toujours en arrière, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous suit. C'était vraiment un pays qui vit pas pleinement, mais qui vivote. Et là, Jérusalem a pris l'allure de Rio de Janeiro. Il y avait des foules de gens qui convergeaient vers la rue Jaffa, et de la rue Jaffa vers la rue King George, vers la maison de la Sornout, de l'agence juive. Des milliers de personnes. Les gosses, moi, j'étais sur l'épaule de mon père. Mon frère qui était un peu plus grand à côté de lui. On avait tous des gros pull-overs, on avait que tous des peignoirs, ça faisait rien. Et il y avait des gars qui étaient avec l'accordéon, qui venaient, on sait pas d'où, et qui de temps en temps donnaient un hora en diablé, et les gens se mettaient à danser tous la hora. Ça était une nuit inoubliable. Inoubliable.
Inoubliable comme ce livre, hallucinant, ce témoignage de vie qui est le vôtre, le livre dont je cite le titre, L'espérance a toujours raison, mémoire, paru aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup Rika Zaraï. Dans ce livre, il y a aussi toute l'épopée de Rika Zaraï, chanteuse, tous des artistes aussi extraordinaires. Merci. Donc c'est un livre fascinant. Merci beaucoup. Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h avec Cécile Lange. Thank you.